C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Nous sommes lundi 25 avril. Bonne journée. Bienvenue au 98.5. Avec un ciel nuageux, ce sera pas mal ça qui va dominer aujourd'hui. Avec un peu de soleil, les vents 40 km/h ce matin. Et ça pourrait atteindre comme maximum autour de 19 degrés. En soirée, couvert de la pluie qui commence au cours de la nuit, minimum de 12. Et puis demain, de la pluie en matinée. Ça va un peu se dégager, mais en tout cas, ça demeure nuageux pour une bonne partie de la journée, assez venteux. Et un maximum prévu de 15 degrés. Parlons de la guerre en Ukraine, bien sûr, deuxième mois. Et il semble y avoir certains développements du côté de Mariupol, peut-être un cessez-le-feu. C'est en tout cas ce qu'annonce Moscou. Et on va regarder également un peu le bilan de la fin de semaine avec Tetiana Ogarkova, qui est journaliste. Tetiana, bonjour.
Bonjour.
D'abord, peut-être nous dire ce qui se passe du côté de Mariupol pour commencer.
Alors à Mariupol, effectivement, la semaine dernière, il y avait une annonce de Vladimir Poutine, président de la Russie, comme quoi ils allaient cesser en fait l'assaut de Azovstal, cette usine métallurgique où les soldats ukrainiens font toujours leur défense. Mais finalement, d'après l'information qu'on reçoit sur place, les bombardements très lourds d'Azovstal continuent en permanence. À l'intérieur de l'usine, il y a des défenseurs de la ville et un millier de civils. En même temps, on voit que les troupes russes sont moins nombreuses à l'intérieur de Mariupol. Une partie d'eux est partie vers le sud, direction Kherson et Mykolaïv. Une autre partie est partie vers direction de Donbass pour renforcer justement les troupes russes présentes sur place. Mais pour la ville, ça reste dramatique. Il n'y a pas de possibilité de quitter les lieux pour les défenseurs d'Azovstal et pour les civils, y compris ceux qui se trouvent à l'intérieur de la ville, ils sont pas moins que 100 000 habitants à l'heure actuelle.
Et il y a eu aussi des frappes au cours de la fin de semaine, particulièrement au centre et à l'ouest du pays.
Oui, tout à fait. Ce matin, en fait, il y a quelques heures seulement, il y avait des alertes aériennes en permanence sur tout le territoire de l'Ukraine. Déjà, 5 stations de voies ferrées ont été touchées, sans préciser exactement en fait les stations exactes, mais ça se passait au centre. Et à l'ouest du pays, on parle de la région de Khmelnytsky, région de Vinnytsia et région de Rivne. Donc apparemment, les missiles russes visent les voies ferrées pour ralentir justement le dépôt d'armement qui provient en Ukraine depuis l'Occident. Hier, il y avait des frappes, avant-hier samedi, il y avait des frappes contre Odessa. Malheureusement, un immeuble résidentiel a été touché. Un bébé de 3 mois a perdu sa vie avec sa mère et avec sa grand-mère. Leur père est sorti faire les courses pour la fête. On avait la Pâque orthodoxe dimanche, donc samedi. Donc, il est sorti juste quelques minutes. Et donc, à ce moment-là, l'appartement était dévasté. Et donc, un bébé, donc sa fille, sa femme et sa belle-mère, on va dire, ont perdu la vie, malheureusement, dans cette attaque cruelle et absurde.
Merci beaucoup, Tetiana. Bonne journée. On vous retrouve demain. Je me permets d'ajouter qu'on a eu ces rencontres au sommet avec, entre autres, le secrétaire d'État américain, Blinken, qui considère, en tout cas ça c'est la version américaine, que les Russes ont enregistré des pertes militaires importantes en Ukraine, en tout cas plus importantes que ce qui était prévu. Et on a aussi garanti donc une aide financière, une aide militaire, donc plus importante pour permettre à l'Ukraine de se défendre. Et même, on dit qu'il y a des convois de blindés russes qui circulent dans l'intérieur de la capitale et pas très loin de l'endroit où on présume se trouve le président Zelensky. Alors voilà pour ce qui est de la situation en Ukraine. Maintenant, élection en France, c'était le deuxième tour hier. C'était assez prévu que Emmanuel Macron serait réélu. Mais il a moins bien fait qu'il y a 5 ans. Et on peut dire que l'extrême droite a marqué des points. Marine Le Pen, qui est allée chercher environ 42% des votes hier. Fabrice de Pierrebourg est à Paris. Bonjour, Fabrice.
Bonjour, Paul.
Alors, peut-être nous parler un peu de ta journée. Tu t'es promené, bien sûr, dans les bureaux du scrutin. Et ça s'est terminé au Champ de Mars, où le président Macron a fait son discours.
Oui, puis Paul, je dirais, ça a été une soirée un peu étrange. On voyait que finalement, les Français n'avaient pas le cœur à la fête. C'est sûr qu'Emmanuel Macron, sa victoire est nette, hein, dans un point de vue statistique, 58,5% pour lui contre 41,4% pour Marine Le Pen, donc un écart de 17%. Mais ce qui était très frappant, Paul, c'est que aucune démonstration finalement de joie dans les rues, à part sur le Champ de Mars, où les militants d'Emmanuel Macron étaient réunis, mais dans, je dirais, dans une espèce d'enclos sécurisé. Toutes les rues autour étaient gardées par des pelotons de gendarmes mobiles et de policiers, beaucoup de policiers à moto qui circulaient aussi dans les rues. Donc c'était comme une fête un peu en vase clos de militants, avec un discours d'Emmanuel Macron qui finalement lui-même semblait prendre acte, qui devenait président d'une France à la fois désabusée, fracturée. Hein. Il a promis que c'était une nouvelle ère, qui prenait en compte ce vote quand même de l'extrême droite qui est très fort, Paul, parce que depuis 2002, où c'était à l'époque un certain Jean-Marie Le Pen, donc le père de Marine Le Pen, qui était au second tour pour la première fois, c'était à l'époque face à Jacques Chirac, il avait fait, je pense, 17%. Hier, on était rendu quasiment à 40%. Et il y a des sondages qui disaient que près de la moitié des Français qui avaient voté pour Emmanuel Macron, en vérité, avaient voté pour faire barrage à Marine Le Pen. Donc la nuance est importante et ça promet un quinquennat qui risque d'être très difficile pour Emmanuel Macron. Et puis dans les rues aujourd'hui, puis dans les journaux, quand on entendait les politiciens hier soir, ben on se rend compte que la suite, ça va être au mois de juin. Il va y avoir les élections législatives en France qui sont en deux tours et non pas un comme au Québec. Et là, évidemment, l'opposition, que ce soit l'extrême droite et l'extrême gauche, qui sont devenus le contrepoids majeur en France à la droite d'Emmanuel Macron, droite-centre d'Emmanuel Macron, veulent absolument faire un très bon score pour être finalement le contrepoids à la gouvernance de Macron et peut-être avoir ce qu'on appelle un gouvernement de coalition. C'est une chose qui a déjà eu lieu trois fois dans les années 80-90, où on avait un président qui était d'une obédience politique et un premier ministre nommé qui lui représentait l'opposition. Donc avec un président finalement qui avait les mains liées, qui était obligé d'avoir un programme qui n'était pas le sien lorsqu'il a été élu à la présidence.
Mais ce qui est intéressant, et j'écoutais hier les différents plateaux de télé en France, c'est que 42%, bien sûr, c'est beaucoup pour Marine Le Pen. Pas tous des gens d'extrême droite, mais quand même, ça exprime une grogne, une insatisfaction, que ce soit face au coût de la vie. On se souvient des épisodes avec les gilets jaunes, la réforme scolaire. Il y a plusieurs dossiers. Et le président Macron, dans son discours, a pris acte également de ce que le vote envoyait comme message.
Oui, puis quand je parlais aux gens à la sortie des bureaux de vote, Paul, hier dans la journée, ils me parlaient tous du coût de la vie, de l'âge de la retraite. On sait que Macron veut porter l'âge de la retraite de 62 à 65 ans. Et ça, pour eux, c'est important. Et pour une partie de la France, Macron a une étiquette qui lui colle à la peau, qui est le président des riches, déconnecté de la réalité des Français. Et effectivement, comme tu le disais, la crise des gilets jaunes, qui a quand même duré pendant près de deux ans en France, c'était le symbole de ça. Et là, on le voit, moi je le vois, là, le prix de l'essence, par exemple, est en train de s'envoler ici. Il y a plus de 2 euros le litre, ça fait près de 3 dollars. Comme tout le monde, c'est les mêmes dossiers qu'au Québec, finalement. Il y a des problèmes avec le milieu de la scolaire, avec le milieu de la santé. Ça c'est comme au Québec, ça s'est vu pendant la pandémie. Donc, il a tous ces dossiers-là. Et c'est sûr qu'en même temps, lui, sur ses 5 ans, il a eu 2 ans de gilets jaunes, 2 ans de pandémie. Donc, peut-être que ça aussi, ça a teinté sa politique à l'époque. Mais les Français ont envoyé un message. Et il y en a 60%, Paul. Il y a eu des sondages hier qui disent qu'il ne faut absolument pas qu'il ait la majorité lors des élections législatives. Donc, il sera vraiment, on va dire, sous surveillance. Et de toute façon, c'est son dernier mandat. Est-ce qu'on ne peut pas faire plus de 2 mandats en France?
Merci Fabrice, et on te reparle évidemment un peu plus tard. Un mot aussi sur les funérailles nationales qui ont été annoncées par le premier ministre Legault pour Guy Lafleur. La famille a dit oui, et donc ça se passera au Centre Bell, en fait, pas les funérailles, mais plutôt ce qu'on appelle la chapelle ardente, dimanche 1er mai de midi à 20h, et puis lundi de 10h30 à 15h, et les funérailles comme telles seront célébrées le lendemain. Ici à Montréal. La ville de Turceau a rendu hommage à Guy Lafleur hier. Donc, il y avait le maire, certains membres de sa famille également. Donc, Guy Lafleur qui a eu droit à tous ses hommages. Puis au Centre Bell hier, c'était évidemment extrêmement touchant de voir un peu la foule, d'entendre. Puis je ferai jouer d'autres extraits tantôt. Et Michel Lacroix qui a tenté de dire aux gens « OK, on passe à autre chose ». Puis les gens ont poursuivi l'ovation pendant une dizaine de minutes. Très bien, on va regarder aussi quelques nouvelles de santé. D'abord, concernant le dossier COVID, on a vu, en tout cas, au niveau des hospitalisations, une certaine stabilisation, ce qui est en soi une bonne nouvelle. C'est un peu ce que projetait la semaine dernière le directeur de la santé publique, Dr Boileau. Et ce matin, vous avez une étude qui vient pas mal confirmer d'autres études concernant les non-vaccinés. Et je sais qu'il y en a qui, évidemment, vont rejeter ça du revers de la main. Mais l'étude montre assez clairement que les gens qui ne sont pas vaccinés contre la COVID contribuent d'une façon disproportionnée au risque d'infection. Donc, quand vous n'êtes pas vacciné, bref, vous vous mettez vous-même à risque, et on sait que les conséquences sont plus sérieuses, mais vous pouvez également être une source de contamination, même auprès de gens qui sont vaccinés et qui vont quand même développer la maladie, avec moins d'effets, moins de problèmes sérieux, mais quand même. Alors, c'est dans le Globe and Mail, l'étude va être publicisée un peu plus aujourd'hui. Maintenant, dans le Journal de Montréal, un sondage léger sur les Québécois et le privé en santé. Donc, c'est intéressant. Il y a une majorité de Québécois qui seraient d'accord que le privé occupe davantage d'espace pour offrir des soins de santé. Seulement 24 % des Québécois sont contre l'idée et 16 % des gens ne savent pas. Puis là, quand on dit le privé en santé, je rappelle toujours l'exemple. C'est d'avoir des cliniques, par exemple, où on peut opérer des patients. C'est ce qu'on vit actuellement, là. On vous envoie dans un centre privé, ça vous coûte pas un sou, c'est payé par l'État, et ça permet d'opérer des gens qu'on pourrait pas faire à l'hôpital. Est-ce qu'on en veut plus de ce genre de système avec une offre plus large, mais assumée par l'État? Et ça veut dire que les gens, quand ils regardent la proposition du ministre Christian Dubé, veulent bien y croire, là, la grande réforme du système de santé, mais vous comprendrez qu'on est assez sceptique. Et dans le sondage également, on a testé les ministres de la Santé, la popularité des dernières années. Christian Dubé est à 32 % Philippe Couillard à 6 % Gaëtan Barrette, Bolduc, Régent Hébert, Mme Mécan sont tous à 1 ou 3 % Et on a aussi mesuré les différents aspects de la réforme sur le fameux guichet unique, décentraliser la gestion du réseau. Et tout ça est intéressant, puis je vous le disais tantôt, je vais recevoir ce matin un médecin qui s'appelle Dr Simon Maltais. C'est un chirurgien cardiaque qui a travaillé aux États-Unis dans des prestigieuses cliniques, des hôpitaux, également au Québec. Et le titre du livre, c'est « Code bleu ». C'est le système de santé qui rend malade les gens qui nous soignent. Il parle de son expérience. Il y a une autocritique assez forte, là, où il raconte à quel point son égo est encore un peu démesuré, à quel point il a travaillé fort, qu'il s'est endetté, qu'il est tanné du docteur bashing, mais aussi de la lourdeur et du manque de respect, non seulement à l'égard des médecins, mais de l'ensemble des travailleurs de la santé. Et il parle de la bureaucratie, que ce soit privée ou publique, de la lourdeur, le fait qu'on n'a pas vraiment, puis donne un certain nombre de pistes de solutions, là, mais une approche plus humaine. Il dit, ça continue comme ça, les gens s'épuisent, les gens quittent, cherchent une autre façon de gagner leur vie que dans le réseau de la santé. Bref, super intéressant comme bouquin, c'est publié aux éditions de l'Homme. L'autre chose maintenant, éducation. Grégory Charles a fait beaucoup jaser, on va le recevoir ce matin quand il a dit, il faut qu'il y ait une vraie réforme en éducation au Québec. Et vous avez vu tout ce débat sur les critères de sélection et les écoles qui ont des projets particuliers qu'on lit avec les résultats scolaires. Si tu veux suivre tel programme qui est contingenté, ben il faut que tu aies les notes. Si tu n'as pas les notes, tu ne peux pas le faire. Donc, on se retrouve avec une certaine forme d'élitisme dans les classes. Et là, ce matin, dans Le Devoir, on se rend compte qu'il y a des centres de services scolaires qui veulent modifier l'approche. Donc, des programmes qui étaient réservés aux élèves les plus performants sont maintenant remis en question. Puis l'idée, c'est toujours un peu celle développée par des experts en éducation qui disent ben, il ne faut pas que les meilleurs soient juste entre eux autres. Il faut faire une mixité, que des élèves qui ont des difficultés se retrouvent aussi avec des élèves qui vont bien. Puis ceux qui sont bons, ben, vont tirer les autres vers le haut. Et non pas l'inverse, là. C'est pas parce que t'es bon puis que t'as des moins bons dans ta classe qui performent moins bien que tu vas, tu vas voir tes notes être affectées, là, que ça va moins bien aller. Et c'est aussi pour offrir un ensemble de programmes, de services pour ce qui est des élèves peut-être qui ont un peu moins de réussite scolaire à leur actif, mais qui pourraient aussi se développer dans d'autres programmes. Puis j'ai un cas ce matin que je vais vous raconter, une maternelle 4 ans. La mère s'appelle Annabelle Lavallée, puis elle veut inscrire son enfant au centre de service scolaire de la Seigneurie des Mille-Îles. C'est un enfant qui n'est pas allé dans un CPE, c'est un enfant qui, est, comme beaucoup, là, a peut-être eu les contre-coups de la pandémie. Et dans le cas qui nous intéresse, les places sont limitées. Et même si le médecin recommande, c'est un tirage au sort qui va déterminer s'il y a trop de demandes, quels sont les enfants qui pourront fréquenter l'école. Donc, je vais vous en parler un petit peu plus tard ce matin. Mais dans Le Devoir, l'article de Marco Fortier là, sur l'élitisme à l'école. Donc, c'est assez intéressant. Aussi, fallait s'y attendre, Radio-Canada revient sur le dossier des billets d'avion à 500 $ là, pour aller se promener dans les régions du Québec. Et là, c'est la folie depuis que le ministre Bonnardel a annoncé ça. Là, les gens qui avaient déjà acheté des billets veulent annuler, c'est sûr, parce que c'est à partir du 1er juin. Puis là, tu ne veux pas payer le double du prix, tu veux vraiment profiter des rabais. Donc, il y a beaucoup de gens qui appellent et, comme on le voit souvent dans les programmes gouvernementaux, tous les fils ne sont pas encore attachés. Et on sait que il y aura des billets, mais que le nombre de places, finalement, sans être officiellement limité, peut s'attendre aussi à ce qu'il y ait un certain plafond. Alors, on verra les modalités qui vont s'ajuster quand même assez rapidement.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause. L'Essentiel de Paul Arcand. Tout ce que vous devez savoir en moins de 60 minutes.
Grégory Charles a fait entendre sa voix sur le débat entourant notre système d'éducation au Québec. Et si c'est vrai que les grands enjeux de société ont été délaissés un peu depuis 2 ans en raison de la pandémie, c'est peut-être le moment de ramener ça à l'ordre du jour. Et il y va de propositions qui peuvent parfois surprendre. Il est avec nous ce matin. Grégory Charles, bonjour.
Bonjour, Paul.
Ce cri du cœur, on a appelé ça un cri du cœur dans la presse, il est arrivé comment? C'est à force de parler à des jeunes, à leur enseigner, à prendre contact, puis dire il y a un problème dans notre système.
En fait, c'est des décennies d'enseignement. Puis là, j'utilise le mot enseignement avec une réserve. Je ne suis pas un prof, j'ai pas fait de cours de pédagogie, mais j'ai toujours enseigné. J'ai enseigné la musique, j'ai enseigné l'histoire, j'ai enseigné aux décrocheurs. J'ai enseigné sous toutes les formes possibles à des jeunes. Puis, alors, à un moment donné, il y a une expérience qui rentre, puis il y a des observations qu'on fait aussi. Puis encore une fois, c'est pas absolu, ces observations-là. Mais il y a des observations. Puis là, le fait d'être dans une espèce d'école télévisée à tous les jours, bien que ce ne soit pas avec des enfants qui ont 9-10 ans, puis c'est même pas des ados au secondaire, ça cristallise tout ça. Puis le rapport que la population a aussi avec l'éducation, la différence entre les gars et les filles, le contexte dans lequel on fait l'éducation, ça nous force à nous poser des questions. On est dans un système scolaire, par exemple, qui est beaucoup dicté, guidé par l'horaire des autobus, qui est guidé par l'horaire de l'année, les activités professionnelles des parents. C'est guidé par plein d'autres choses qui sont importantes, mais qui devraient peut-être pas être à la base de notre réflexion.
Tu fais des propositions, on va y revenir, là, à la fois sur donc les gars à l'école, à la fois sur le calendrier scolaire. Je veux commencer par la place des gars dans le système. Ça fait des années qu'on entend des chiffres alarmants sur le niveau de décrochage scolaire. On sait qu'il y a des gars qui sont pas à l'aise dans les dans l'aménagement des cours. Bref, que c'est pas une école qui tient compte des besoins des gars.
Non,
d'accord avec ça?
Moi, je pense qu'on n'enseigne pas pour les garçons. Évidemment, il y a des gens qui vont écouter en ce moment qui vont dire, mais tous les garçons sont pas pareils. C'est sûr que tous les garçons sont pas pareils et toutes les filles sont pas pareilles. Mais la réalité quand même générale, c'est que si tu demandes à quelqu'un, est-ce qu'un garçon et une fille du même âge ont la même maturité? Disons, come on. À 50 ans, on n'a pas la même maturité. À 25 ans, on n'a pas la même maturité. Les garçons sont moins mûrs. Alors, c'est certainement vrai à 12, quand les garçons ont les hormones à broil, puis qu'on les fout dans des classes avec des filles qui sont déjà des femmes, quelque part, et qui ont aucun intérêt pour eux, qui sont déjà intéressés à des garçons qui ont 2, 3, 4 ans de plus. Et on se dit, hey, ça va bien étudier ça, dans ces classes-là. Ça va être super attentif. Mais c'est pas tout, de façon générale. Encore une fois, il y a des exceptions. Mais de façon générale, Les filles à qui j'ai enseigné aiment ça avoir un programme. Ils aiment ça savoir est-ce qu'on s'en va. Quand je propose quelque chose, la première question qui est posée par un groupe de filles, c'est ça compte pour combien? De quoi on va avoir besoin? Comment ça va marcher? Alors que les garçons se proposent une activité, ils sont déjà dans l'activité avant que tu aies expliqué qu'est-ce que c'est. Moins intéressés à savoir ça compte pour combien. Pas tant intéressés à avoir des balises. Je sais, encore une fois, je le répète, là, je sais que tous les enfants sont pas pareils, mais il y a une raison pour laquelle j'ai enseigné aux décrocheurs pendant 11 ans et que j'ai jamais vu une fille. Il y en a des filles qui décrochent. En général, elles décrochent pour des raisons sociales. Elles ont un chum dans une autre école, il y a une grossesse non désirée. Il y a plein de choses comme ça qui arrivent. Mais les garçons décrochent et le plus alarmant, je sais pas quels sont les chiffres là, dans les trois dernières années, mais pendant que j'enseignais aux décrocheurs dans les années 2000, la moitié des décrocheurs étaient dans les premiers rangs centiles 6 mois avant de décrocher. Fait qu'on peut même pas dire que c'est parce qu'ils sont pas capables de suivre le système. On peut même se dire qu'il y en a plein qui sont capables de suivre le système mais qui renoncent à le suivre, sont découragés, ils voient pas c'est quoi le but, voient pas c'est quoi l'objectif et rentrent pas facilement dans le système bibliothéconomique de j'ai un plan de cours puis on va lire de telle page à telle page à ce moment-ci. Je suis pas en train de dire que c'est facile d'enseigner aux filles non plus, c'est pas ça. Mais ça il m'apparaît clair qu'après des générations où on n'a pas permis aux filles de se déployer comme elles auraient dû, là on commence à s'aligner ce bord-là, mais je pense qu'on est en train d'échapper la façon d'enseigner aux garçons. Puis c'est pas une question de femmes qui enseignent, d'hommes qui enseignent. Je pense pas que ce soit ça. Des profs, que ce soit des gars ou des filles, des profs, ça, des vrais profs là, qui aiment ça. Là,
mais est-ce que tu irais jusqu'à séparer?
Ah, totalement. Moi, j'irais jusqu'à séparer. Je suis pas en train de dire qu'il faut séparer les gars et les filles dans un établissement. Parce que j'entends là, depuis des années le débat de c'est important que les filles soient en contact avec les garçons puis qu'après, s'ils découvrent pas les gars subitement à 17 ans. Je comprends tout ça. Mais moi j'ai travaillé en musique, je travaillais en histoire, je travaillais en plein de choses avec des garçons et des filles et je trouve qu'on perd au change quand on les mêle. Les garçons, par exemple, il faut leur répéter 200 fois des affaires quand on veut qu'ils améliorent une chose. Les filles, non. Prennent des notes. Encore une fois, c'est général ce que je dis là. Prennent des notes, corrigent rapidement. Fait que quand t'es les deux ensemble, les filles, ça a ses cœurs d'être obligées de se faire dire 200 fois la même patente. Inversement, fait beaucoup plus préoccupé par la performance, par qu'est-ce que les gens vont penser d'elles au moment où elles le font. Les gars, pas du tout important pour eux. Donc là, rendu au moment de la performance, c'est l'autre bord qui est un peu frustré par le fait que ça s'est pas passé comme on prévoyait. Pourquoi ne pas reconnaître qu'on peut universellement donner le meilleur service possible et aux gars et aux filles, mais reconnaître que ce sont deux bébites différentes. J'en ai une fille. Je le vois bien comment il y a plein de choses qu'elle a en commun avec moi quand j'avais cet âge-là, mais plein de choses qu'elle n'a pas en commun non plus. Je vois ses petites amies de filles aussi. C'est différent. On peut faire ce genre de service-là. On peut faire de l'enseignement qui est plus précisément collé sur des garçons. Je vais donner un exemple niaiseux, là. Il y a de plus en plus de filles en sciences. Et ça, c'est fantastique. Mais dans les concours au niveau collégial, même au niveau secondaire, les concours de sciences qui comptent pas dans le bulletin, là, ceux qui comptent pas, là, encore une ribambelle de gars qui vont démonter une tondeuse, qui vont essayer de mettre ça sur une brouette pour faire un espèce de go-kart, etc. C'est pourquoi ça compte pas? Fait que là, ils sont bien contents d'aller travailler des heures et des heures dans leur sous-sol, dans leur garage. Les filles, c'est plus important. Ça compte. Les gens qui sont pas d'accord avec moi en ce moment là sont obligés quand même d'ouvrir l'agenda de leurs enfants puis regarder l'agenda de leurs filles avec plein de couleurs différentes, écrit vraiment très clairement sur les choses à faire, et l'agenda de leurs gars avec des stickers de patentes qui ont pas rapport avec l'école. C'est ça la réalité.
Mais tu vas même jusqu'à vouloir modifier le calendrier scolaire.
Totalement. Moi, je prends les enfants comme des adultes. Si je t'accueille dans mon entreprise, je vais pas te dropper à ton bureau puis te dire vas-y travaille. Non, je vais faire un meeting, je vais faire une rencontre avec les employés, je vais m'arranger pour que tu te sentes bien, que tu te sentes confortable. Je vais te donner aussi une piste de décollage pour que tu aies le temps de t'adapter. Nous, on fait pas ça. Nous, on décide que les kids finissent le primaire, on les envoie dans un établissement où il y a 5000 personnes au secondaire. Hey, débrouille-toi, mon grand. Et en plus, on décide de le faire à des moments où ils sont, en général, le plus fatigués. Exemple, l'horaire de Noël. On finit, il y a pas de soleil, c'est le solstice d'hiver. On décide de les faire surmanger, on décide de les faire sous-dormir. Et après ça, quand nous, là, on prendrait un break pour aller en vacances, on se dit, on va les renvoyer en classe au moment où ils vont se lever avant que le soleil se lève, ils vont sortir d'école, le soleil va être couché, ils ne verront pas pendant des mois. Alors que on pourrait facilement, nous, dans notre pays hivernal, on pourrait très très bien se dire, hey, sais-tu quoi? on prend janvier off. On prend janvier off, on va pratiquer des sports d'hiver. On va peut-être encore être meilleur aux Olympiques d'hiver. Alors que la Norvège, qui prend un break au mois de janvier, là, pourquoi on se pose des questions? Pourquoi ils gagnent un paquet de médailles d'or? Ils font des sports d'hiver parce que c'est un pays nordique. On pourrait faire ça. Ça veut pas dire qu'on n'a pas le droit à des vacances pendant l'été, mais je l'ai été enfant. Je vois la mienne. Au final, on envoie nos enfants dans des camps de jour. Fait que c'est un peu comme si on les envoyait à l'école. Puis après 3-4 semaines, ils savent plus exactement qu'est-ce qu'ils vont faire. Ils diront, on va se faire la ronde. On est allé 4 fois à la ronde. On est allé aux autres grimbés. On a fait ça. Puis c'est des activités importantes. Mais on pourrait commencer l'école, l'ensemble du mois d'août dans un climat où on a des demi-journées. On fait de l'école le matin. On fait des activités. On pourrait même le faire carrément dans des camps. Pourquoi pas avoir un horaire comme celui-là qui est mieux adapté à la vie scolaire? Dernièrement, on entend parler d'une semaine de relâche au printemps, une semaine de relâche à l'automne. Ça a plein d'allure, ça, des semaines de relâche, mais pourquoi pas réajuster ça? Puis j'entends, je le connais déjà, le discours de les conventions collectives, je connais aussi les ambitions des parents, les parents qui travaillent, qui ont besoin de parquer leurs enfants quelque part. J'en suis un parent aussi, je comprends tout ça, mais ça marche pas. Ça marche pas, notre affaire. Puis même si, sur le plan politique, on dit le niveau de décrochage est à peu près le même aujourd'hui qu'il était au milieu des années 80. C'est vrai, là, en termes de chiffres.
Mais c'est pas très, très jojo pour
non,
autant.
Non, c'est pas bon, mais c'est pas tout. C'est que, souviens-toi, Paul, au milieu des années 80, tu pouvais être chauffeur d'autobus avec ton secondaire 3. Tu pouvais être policier avec un secondaire 5. Il y a plein d'affaires que tu pouvais faire dans les années 80 avec moins d'éducation. C'est plus vrai. C'est toutes des affaires qui nécessitent le collège, qui nécessitent l'université. C'est ça?
Deux choses. J'ai vu des profs réagir sur les réseaux sociaux en disant, mais de quoi ils se mêlent? Nous, les profs, on nous écoute pas, on nous entend pas, on nous consulte vraiment très peu. Pourquoi lui aurait une tribune? Qu'est-ce que tu réponds à ça?
D'abord, je pense qu'une des difficultés du milieu d'éducation de façon générale, c'est que les profs, de façon générale, ne se sentent pas compris. Et ils ont raison. Nous, on se fait comme parents du capital politique sur le dos des profs. La minute qu'un prof dit quelque chose à notre fils ou à notre fille, on débarque à l'école, on n'a pas trop réfléchi à est-ce que ça se peut, est-ce que c'est possible? Non. On se sent tellement coupable de pas être assez présent dans la vie de nos enfants que s'il y a quelqu'un qui dit quelque chose, alors on va monter aux barricades pour les défendre. Et on voit pas les profs comme étant des partners dans notre travail d'équipe d'éducation des enfants. Fait qu'ils se sentent incompris. Mais de façon générale, les écoles veulent aussi qu'on leur foute la paix et qu'on se mêle pas de leurs affaires. Mais c'est pas vrai. C'est de nos affaires. C'est des affaires de l'ensemble de la société que ça marche mieux, que les jeunes apprennent plus, qu'ils soient plus heureux. Et on a des sondages après sondages, pas juste en pandémie, là, où on demande aux jeunes s'ils sont bien à l'école, s'ils sont heureux. Non, ils sont malheureux. Ils voient pas nécessairement le sens non plus d'apprendre ceci, d'apprendre cela en rapport avec ce qu'ils vont avoir comme job plus tard. On a un paquet de profs qui, si ça marchait si bien, ils n'abandonneraient pas rapidement. Et quand ils abandonnent, mettons, là, quand ils prennent leur retraite très tôt, hey, moi, je leur pêche pas des roches, là. J'en ai une, Paul, j'en ai une fille. Elle est une super étudiante, elle est pas difficile, elle a pas de troubles d'apprentissage. Quand je lis toute la journée, moi, une, je suis fatigué au bout de la journée. Fait que j'ai pas de difficulté à m'imaginer que les profs qui en ont 30 et qui, eux, quand ils retournent chez eux, ils ont leurs propres enfants, qu'ils soient fatigués. I get it. Mais moi, ma réaction, si j'étais prof, ce ne serait pas de dire, ferme donc ta gueule, t'es pas dans ce milieu-là. Ma réaction serait, hey, peut-être qu'il est sérieusement temps qu'on ait des états généraux, ça. Puis là, je parle pas d'états généraux sur le plan politique, là, ça. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, ça fait juste perdre du temps. Non. Il est temps qu'on
réfléchisse
à ça. Mais là,
on a fait la lab école pour faire des écoles plus belles, plus logiques, avec des fenêtres, avec des espaces communs.
Puis ça, on en a besoin, Paul, que le contenant soit mieux. Parce que souvenons-nous, là, on est assez vieux, nous autres, pour se rappeler, là. On a construit des écoles, là, à vitesse de la lumière des années 60, là, après le grand bouleversement, là, scolaire qui a fait passer l'école du monde religieux au monde laïque. On a construit tout un peu sur le même format, des gymnases qui sont bas, plein de néons, peu de fenêtres, etc. Ça a plein d'allure, mais notre réflexe habituel de revamper un domaine, c'est de le revamper sur le plan du contenant. Puis, oui, go le contenant, puis mes amis aussi, qui sont pas nécessairement des profs, qui ont participé à la reconception de ce à quoi devrait ressembler l'école, puis de qu'est-ce qu'on devrait avoir dans la cafétéria, puis tout ça, là, je suis totalement pour, je trouve ça fantastique, mais c'est juste le contenant. Il faut repenser au contenu, il faut repenser au rapport entre les professeurs puis les élèves, la quantité de ça, il faut repenser à l'horaire scolaire. Faut se dire qu'on peut pas avoir des horaires scolaires qui sont basés sur le fait que la première personne qui va prendre l'autobus va le prendre à 6h moins 10, puis elle va aboutir chez elle à 6h30. À Montréal, ou dans la région métropolitaine, ça se parle moins. Moi, je viens de la campagne. On le sait comment tout ça est basé sur l'horaire des autobus scolaires. Il faut repenser. Il faut absolument qu'on en discute, qu'on repense ça. À moins que quelqu'un puisse sérieusement, prof ou pas prof, se lever et dire, ah non, ça marche bien. Arrêtez ça. Tout marche sur des roulettes.
Dernier point, ben, il y en aurait plusieurs, mais il y a tout un débat qui se fait actuellement sur les fameux tests pour les programmes particuliers. Donc, si tu veux jouer au hockey, il faut que tu aies des bonnes notes. Si tu veux avoir telle activité, il faut que tu aies des bonnes notes. Et là, il y a des centres de services qui disent il faut arrêter cette sélection pour permettre d'avoir des jeunes qui ont moins de succès à l'école, qui soient dans les mêmes classes que ceux qui vont bien, puis que les meilleurs tirent les moins bons vers le haut. T'en penses quoi?
Moi, je vais dire ceci. Si Mozart était allé à l'école, il serait pas Mozart. Si Mozart était allé 8 heures par jour à l'école pour apprendre je ne sais trop quoi d'autre, qui, 60% est important dans la vie, là. Je suis pas en train de dire que c'est pas important de réussir tes maths, de réussir ton français, de réussir whatever cours que tu as, là. Mais si ça avait été ça, il aurait pas été Mozart. Moi, ces absolutismes-là où il faut que tu réussisses une autre patente pour faire d'autres choses, je vois pas pourquoi on fait ça. Il y a des tas de talents différents dans la vie. Si on est capable de raccrocher des jeunes garçons ou filles, et de leur permettre de s'émanciper dans la vie, de se déployer dans la vie à travers la musique, à travers la danse, à travers le sport, à travers... Faisons ça. On a des projets individuels. Tous ces jeunes-là, là, ce sont des projets individuels qu'on n'a pas le droit d'échapper. On n'a pas le droit... légendairement, on dit on n'a pas le droit de laisser Mozart être assassiné. Bon, ben c'est ça. On peut pas tirer des conclusions absolues sur toutes ces choses-là. Tout comme on peut pas tirer des conclusions absolues sur la gratuité scolaire. Je comprends. On devrait l'avoir, ce débat-là, la gratuité scolaire. Mais moi, je vois pas exactement comment dire à des gens qui ont des moyens de ne plus payer va aider le système. Je vois totalement comment aider des gens qui n'ont pas de moyens puis qui voient même pas la perspective de se rendre jusqu'à l'université. Je vois totalement l'intérêt d'améliorer ça, de soutenir ça. Mais l'universalité, la globalité, toutes ces décisions-là qui sont binaires, ça marche pas. Moi, ma mère, là, c'était une femme très ordinaire qui venait de la campagne. Ma mère me disait toujours, la vérité est une fraction. Pour prouver son point, elle m'a amené dans le stationnement du Steinberg quand j'étais petit, pour me faire compter le nombre de places de stationnement. Puis elle m'a dit, combien tu penses qu'il peut y avoir de voitures ici? Puis j'ai dit, ben, le nombre de places de stationnement, elle dit, check ben ça, on va revenir demain. Les gens sont jamais totalement bien stationnés. Il y a moins. Hey, c'est une femme ordinaire qui voyait ça de cette façon-là. Elle, sa perspective sur l'éducation, c'était ça. On pousse, on avance. Elle me disait toujours, apprendre, comprendre, surprendre. Alors, je sais, c'est juste des mots, mais ça nous prend ce genre d'ambition-là. Et on n'a pas besoin de faire tous des petits garçons et des petites filles qui sont toutes pareilles, qui réussissent. Je vois aussi sur mes médias sociaux des gens qui disent « Oui, mais c'est un élitiste, il a super bien réussi, étudiant ça et ça et ça. » Je propose pas à notre système d'éducation de produire des mois. Non, je propose à notre système d'éducation de produire un paquet de jeunes plus heureux, plus curieux, plus à l'aise, plus ambitieux aussi. Puis les ambitions n'ont pas besoin d'être un col blanc puis travailler, devenir actuaire. Il y en a plein des ambitions possibles.
Alors, au mois d'octobre, t'es candidat où et pour qui?
Hey, Paul, t'as lu cet article-là? J'ai commencé par répondre à la question de M. Pratt. Je dis, j'ai aucune ambition dans
la
politique.
Non, mais la rumeur, c'est en vos Parti libéral.
Non, c'est totalement...
Hey, c'est mon ami Drainville qui nous siffle ça, tu comprends? C'est une mémoire politique.
Alors, je sais pas d'où il est parti ça.
Pas vrai.
Non, c'est pas, absolument pas vrai. J'ai zéro ambition, moi, d'aller en politique. Mais ma réponse, encore une fois, n'est pas une réponse binaire, oui, non. Ma réponse, quand on me le demande, c'est... Si un jour quelqu'un me disait, ça nous prend absolument ta participation pour améliorer les choses dans ce domaine-là, je ne crois pas que j'ai le droit de dire non. Et pas juste moi. Toi non plus. Et tous les gens qui nous écoutent, on doit, si on veut changer les choses, pas juste les changer pour les changer, pour les bouleverser, pour les mettre à terre, juste les faire évoluer. On doit être prêt au service public. Il faut qu'on soit prêt à dire, d'accord, j'ai un prof de latin là, du secondaire qui serait heureux de m'entendre parler là parce que son héros, c'était Saint-Sinatus. Le gars qui travaillait son champ, puis quand la République romaine était en danger, les gens venaient s'adresser à lui pour dire, hey, on a besoin de ton aide, deviens consul, puis dire, OK, je reviens, mais dès que c'est fini l'urgence, je retourne dans mes temps. On n'a pas besoin de faire une vie de politique non plus, puis d'ambition. Alors, j'ai aucune intention de le faire. Et ma blonde a encore moins d'intention que j'aille en politique. Elle veut rien savoir de ça. Elle me dit toujours, si tu fais ça, je vais être en arrière avec un sac sur la tête avec mon 40 onces. Alors, j'ai zéro ambition. Mais si on me disait, il faut absolument que toi, tu participes à cette évolution-là, je ne vois pas comment je résisterais à ça. Il faut que je te dise une autre chose, Paul. Moi, je suis le fils d'un immigrant anglophone qui vient des Antilles, qui avant de débarquer ici, a participé à l'indépendance de son pays. Un tout petit pays qui s'appelle Trinidad, qui était sous le joug, évidemment, de la métropole de la Grande-Bretagne. Il a participé à ça. Il a ensuite marché avec Martin Luther King pour faire changer les choses. Ça change, ça recule, ça avance, ça recule. Il est arrivé ici en plein bouleversement. Indépendamment de ce que les gens pensent des immigrants puis de la souveraineté, tout ça, lui, il est embarqué ici en se disant, hey, absolument, on est capable de faire cet endroit merveilleux un endroit encore plus merveilleux. Moi, je me sens comme ça.
Grégory, merci d'être venu ce matin.
Merci, Paul.
Grégory Charles. Maintenant, élection en France, c'était le deuxième tour hier. C'était assez prévu que Emmanuel Macron serait réélu, mais il a moins bien fait qu'il y a 5 ans. Et on peut dire que l'extrême droite a marqué des points. Marine Le Pen, qui est allée chercher environ 42% des votes hier. Fabrice de Pierrebourg est à Paris. Bonjour, Fabrice.
Bonjour, Paul.
Alors, peut-être nous parler un peu de ta journée. Tu t'es promené, bien sûr, dans les bureaux de scrutin. Et ça s'est terminé au Champ de Mars, où le président Macron a fait son discours.
Oui, puis Paul, je dirais, ça a été une soirée un peu étrange. On voyait que finalement, les Français n'avaient pas le cœur à la fête. C'est sûr qu'Emmanuel Macron, sa victoire est nette, hein, dans un point de vue statistique. 58,5% pour lui contre 41,4% pour Marine Le Pen, donc un écart de 17%. Mais ce qui était très frappant, Paul, c'est que aucune démonstration finalement de joie dans les rues, à part sur le Champ de Mars, où les militants d'Emmanuel Macron étaient réunis, mais dans, je dirais, dans une espèce d'enclos sécurisé. Toutes les rues autour étaient gardées par des pelotons de gendarmes mobiles et de policiers, beaucoup de policiers à moto qui circulaient aussi dans les rues. Donc c'était comme une fête un peu en vase clos de militants, avec un discours d'Emmanuel Macron qui finalement lui-même semblait prendre acte, qui devenait président d'une France à la fois désabusée, fracturée. Hein. Il a promis que c'était une nouvelle ère, qui prenait en compte ce vote quand même de l'extrême droite, qui est très fort, Paul, parce que depuis 2002, où c'était à l'époque un certain Jean-Marie Le Pen, donc le père de Marine Le Pen, qui était au second tour pour la première fois, c'était à l'époque face à Jacques Chirac, il avait fait, je pense, 17%. Hier, on était rendu quasiment à 40%. Et il y a des sondages disaient que près de la moitié des Français qui avaient voté pour Emmanuel Macron, en vérité, avaient voté pour faire barrage à Marine Le Pen. Donc la nuance est importante et ça promet un quinquennat qui risque d'être très difficile pour Emmanuel Macron. Et puis dans les rues aujourd'hui, puis dans les journaux, quand on entendait les politiciens hier soir, ben on se rend compte que la suite, ça va être au mois de juin. Il va y avoir les élections législatives en France qui sont en 2 tours et non pas 1 comme au Québec. Et là, évidemment, l'opposition, que ce soit l'extrême droite et l'extrême gauche, qui sont devenus le contrepoids majeur en France à la droite d'Emmanuel Macron, droite-centre d'Emmanuel Macron, veulent absolument faire un très bon score pour être finalement le contrepoids à la gouvernance de Macron et peut-être avoir ce qu'on appelle un gouvernement de coalition. C'est une chose qui a déjà eu lieu 3 fois dans les années 80-90, où on avait un président qui était d'une obédience politique et un premier ministre nommé qui lui représentait l'opposition. Donc avec un président finalement qui avait les mains liées, qui était obligé d'avoir un programme qui n'était pas le sien lorsqu'il a été élu à la présidence.
Mais ce qui est intéressant, et j'écoutais hier les différents plateaux de télé en France, c'est que 42%, bien sûr, c'est beaucoup pour Marine Le Pen. Pas tous des gens d'extrême droite, mais quand même, ça exprime une grogne, une insatisfaction, que ce soit face au coût de la vie. On se souvient des épisodes avec les gilets jaunes, la réforme scolaire. Il y a plusieurs dossiers. Et le président Macron, dans son discours, a pris acte également de ce que le vote envoyait comme message.
Oui, puis quand je parlais aux gens à la sortie des bureaux de vote, Paul, hier dans la journée, ils me parlaient tous du coût de la vie, de l'âge de la retraite. On sait que Macron veut porter l'âge de la retraite de 62 à 65 ans. Et ça, pour eux, c'est important. Et pour une partie de la France, Macron a une étiquette qui lui colle à la peau, qui est le président des riches, déconnecté de la réalité des Français. Et effectivement, comme tu le disais, la crise des gilets jaunes, qui a quand même duré pendant près de 2 ans en France, c'était le symbole de ça. Et là, on le voit, moi je le vois, là, le prix de l'essence, par exemple, est en train de s'envoler ici, à plus de 2 euros le litre, ça fait près de 3 dollars. Comme tout le monde, c'est les mêmes dossiers qu'au Québec, finalement. Il y a des problèmes avec le milieu de la scolaire, avec le milieu de la santé. Ça c'est comme au Québec, ça s'est vu pendant la pandémie. Donc, il a tous ces dossiers-là. Et c'est sûr qu'en même temps, lui, sur ses 5 ans, il a eu 2 ans de gilets jaunes, 2 ans de pandémie. Donc, peut-être que ça aussi, ça a teinté sa politique à l'époque. Mais les Français ont envoyé un message. Et il y en a 60%, Paul, il y a eu des sondages hier,
qui disent qu'il ne faut absolument pas qu'il ait la majorité lors des élections législatives. Donc, il sera vraiment, on va dire, sous surveillance. Et de toute façon, c'est son dernier mandat, parce qu'on ne peut pas faire plus de deux mandats en France.
Merci, Fabrice. Et on te reparle, évidemment, un peu plus tard. Un mot aussi sur les funérailles nationales qui ont été annoncées par le premier ministre Legault pour Guy Lafleur. La famille a dit oui. Et donc, ça se passera au Centre Bell, en fait, pas des funérailles, mais plutôt ce qu'on appelle la chapelle ardente, dimanche 1er mai, de midi à 20h, et puis lundi de 10h30 à 15h, et les funérailles comme telles seront célébrées le lendemain, ici à Montréal. La ville de Turceau a rendu hommage à Guy Lafleur hier, donc il y avait le maire, certains membres de sa famille également. Donc, Guy Lafleur qui a eu droit à tous ses hommages. Puis au Centre Bell hier, c'était évidemment extrêmement touchant de voir un peu la foule.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause. L'essentiel de Paul Arcand. Tout ce que vous devez savoir en moins de 60 minutes.
Merci beaucoup. On va en parler d'éducation. Tantôt, on jasait avec Grégory Charles. Nos commissaires vont en débattre. Dans Le Devoir, ce matin, on nous parle de centres de services scolaires qui veulent permettre, disons, des classes plus uniformes, c'est-à-dire d'avoir des bons puis des élèves moins performants et pas toujours attacher les activités ou les programmes particuliers aux notes ou encore à des tests de sélection. Ce matin, je vous raconte une histoire qui se passe au centre de services scolaires Seigneurie des Mille-Îles pour les maternelles 4 ans. Et comme les places sont limitées, dans chacun des centres de services scolaires, il y a une façon de gérer ça. Parfois, c'est un test, parfois, c'est un tirage au sort. Même si des parents arrivent avec une preuve documentée de l'importance pour leur enfant de se retrouver dans une école et donc dans une maternelle 4 ans. Annabelle est avec nous. Elle est mère de 4 enfants. Puis elle tente de justement faire inscrire un de ses enfants. Puis vous allez comprendre un peu le pourquoi et de quelle façon c'est important pour elle. Annabelle, bonjour.
Bon matin.
D'abord, peut-être nous raconter un peu votre enfant, pourquoi c'est important de l'inscrire à la maternelle 4 ans.
Bien, en fait, moi, quand je me suis documentée avant de l'inscrire à la maternelle 4 ans, à savoir la mission de ça, puis quand je lisais ça, bien, j'avais l'impression que ça me parlait à moi. Ça parlait des besoins de mon enfant. C'est un enfant qui n'a pas été à la garderie, qui a un besoin de socialiser. On parle d'entrée graduelle pour justement la maternelle 5 ans, que ça se fasse plus en douceur. Fait que pour moi, c'était comme ça cochait absolument toutes les cases pour mon enfant d'avoir sa place là, dans un établissement comme ça.
OK. Et donc, il y a même le médecin qui vous recommande de l'envoyer à l'école dans ce programme-là dès que c'est possible.
Exactement. Moi, j'ai parlé un peu des enjeux que j'ai à la maison avec mon enfant, puis comment je détectais son besoin d'avoir un petit peu de social. Puis j'ai joint une recommandation à l'école pour un peu étoffer le dossier de mon enfant pour un peu justifier encore plus le besoin qu'il avait de pouvoir fréquenter la maternelle 4 ans là.
Puis qu'est-ce qu'on vous répond à l'école?
Ben on m'a écouté. Mais on n'a pas nécessairement de réponse autre que, ben là, c'est une pige qui est faite au hasard, mais je comprends clairement que le besoin puis les enfants sont pas pris en compte nécessairement là-dedans. Là, c'est une pige dans un chapeau.
OK, donc les enfants, selon le nombre de places disponibles, selon la demande, si ça déborde, ben on va tirer ça au sort.
C'est ça. Puis quand je regarde un peu ailleurs, ben il y a des critères, des balises qui sont faits, puis après ça, quand que tout le monde a pris un peu sa place, ben s'il reste des places, je comprends qu'il peut avoir un tirage, mais là, on s'attarde pas du tout aux besoins des enfants, puis à qui ça s'adresse vraiment, ces programmes-là, à la base, là.
Mais vous, là, en plaidant votre cause, est-ce que vous avez présenté, j'allais dire, vos arguments, la recommandation du médecin? L'école est au courant de ça, là.
Oui, moi j'ai envoyé, mais tout se fait de manière un peu électronique.
Ouais, ouais.
Donc oui, j'ai eu l'accusé réception de cette recommandation, mais on m'a jamais appelé non plus pour me dire ben là ça sera pas valide, on le recevra pas. Moi j'ai quand même pris en compte que c'était pour être évalué puis regardé ça dans ce processus là, mais à ma grande surprise, c'est pas pris en compte du tout là.
OK. Là, vous avez 4 enfants au total. Vous êtes une ancienne éducatrice spécialisée.
Oui.
vous savez comment ça marche.
Exactement.
Puis comment ça marche selon vous?
Ben, j'espérais, parce que moi, c'est dans, avec tout mon bagage, c'est dans ce programme-là que je voyais mon enfant qui répondait à ses besoins. Tu sais, moi, c'est vraiment ça. Je trouve que les maternelles 4 ans, malgré que c'est controversé pour certains, ben, ça l'apporte beaucoup de bien. Ça fait que je mettais beaucoup d'emphase là-dessus, là, c'est certain.
Puis l'autre chose, vous seriez à quelques kilomètres plus loin, mettons dans un autre secteur, avec un autre centre de service scolaire qui n'a pas les mêmes critères. Peut-être que là, votre enfant serait admis.
Certainement. Quand je regarde les critères ailleurs, ils les cochent toutes. On lit noir sur blanc à plein d'endroits. Un enfant qui ne fréquente pas de milieu de garde devrait être priorisé. La fratrie, j'ai un enfant plus vieux qui fréquente l'école aussi. C'est mon école de bassin. Je veux dire, à quelque part, tout est là. Il y a comme un dossier parfait. Pour moi, je le voyais, là, c'est certain.
Exemple, si c'était à Mascouche, Saint-Jérôme, il n'y aurait pas de problème. Mais là, vous n'êtes pas là, ce qui fait que vous n'avez pas la garantie. Il faut attendre le résultat du tirage, probablement.
Exactement. Mais je ne dois pas être le seul parent non plus là, qui vit cette situation-là présentement.
Non, ça, je suis convaincu. Merci beaucoup d'avoir pris ce moment-là avec nous. Bonne journée.
Merci à vous aussi.
Au revoir. Annabelle, je comprends là qu'il y a beaucoup de demandes, puis je comprends que des places peuvent être limitées. Le ministre Roberge, là, sur les critères puis les fameux tests, il dit qu'il n'était pas tout à fait d'accord avec ça, mais quand vous avez des enfants qui ne sont pas allés dans les CPE et elle a décidé de quitter son emploi pour s'occuper de ses enfants, là, quatre, ça devient peut-être une priorité pour que l'enfant puisse se socialiser, puis après la pandémie en plus, on peut tout mettre ça. Mais là, tu dis, c'est un tirage au sort. Puis pourquoi ça serait différent si j'habite à Mascouche? Pourquoi si je suis à Laval, c'est autre chose? Pourquoi? Tu sais, il me semble là, qu'il devrait y avoir, puis je dis pas qu'il faut tout centraliser, mais il faudrait avoir une certaine façon de gérer ça. Et je rappelle que ce ne sont pas des élus. Je rappelle qu'on a créé des appareils bureaucratiques. C'est vrai que ça votait pas fort aux élections scolaires, mais là, les gens essaient de savoir qui est responsable de ça, qui est redevable de ça. C'est, disons, assez compliqué.
C'est 23.